L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Alors Lionel, aujourd'hui, on reprend notre grande fresque historique « Il était une fois à la forêt du plateau de Millevaches » pour une troisième partie. Tu vas donc nous parler de la période des années 1970 à l'an 2000, qui paraît d'ailleurs aujourd'hui un petit peu loin quand même.
Eh oui, Maïline, c'est vrai que l'an 2000, dit comme ça, quasiment un quart de siècle plus tard, ça sonne presque comme une ère médiévale moderne, où on s'attendait à une fin du monde avec son fameux bug de l'an 2000, sa joute électorale à rebondissement lors de la présidentielle, la naissance des réseaux sociaux aussi, sorte de kraken immatériel, les nombreuses prophéties comme la chute de la station spatiale Mir, et surtout un cataclysme majeur pour les forestiers, les tempêtes de 99. Mais out ces considérations, et toujours aidé du rapport de thèse L'enrésinement du plateau de Millevaches entre politique productiviste et fracture locale, reprenons notre frise chronologique depuis 1970 jusqu'à 2000 pour mieux comprendre comment on est passé de l'exode rural à vivre dans la montagne Limousine.
Alors on imagine bien les planteurs en train de piocher sur les landes pour installer la forêt. Et la dernière fois, tu nous as beaucoup parlé des pins, des sapins, des épicéas. Mais aujourd'hui, on voit majoritairement sur notre territoire du Douglas et du Mélèze. Comment expliquer cela ?
Eh bien, en fait, dans la seconde moitié des années 70, des études comparent l'épicéa et le Douglas. Les forestiers Nice et Decourt, ingénieurs de l'INRA, montrent la grande fiabilité du Douglas en fonction de la station par rapport à l'épicéa. Entre 500 et 800 mètres d'altitude, sa productivité est constante. En 78, l'Académie d'agriculture de France affirme que les sapins et le Douglas constituent les essences les moins dégradantes pour les sols et que le mélèze doit être préféré à l'épicéa. En fait, la tempête de 82 aura raison de ces comptes rendus. Elle finit d'éjecter l'épicéa commun, hors de la course à l'enracinement à cause d'un enracinement déséquilibré selon les vents dominants. Plus tard, les forestiers comprendront que les épicéas ne sont pas en station à une altitude inférieure à 600 mètres, ce qui amènera d'ailleurs des maladies comme le FOMES. À l'époque, M. De Cèze, président de l'Union régionale des syndicats de propriétaires civiculteurs du Limousin, prédit à raison, je cite, « On pourrait redouter d'assister à une monoculture de Douglas dans les prochaines années ».
En fait, on pourrait presque dire que le choix du Douglas est dû aussi aux importants dégâts sur les jeunes épicéas communs plus fragiles alors.
Oui, en effet, on peut dire ça, Maïline. Le Douglas l'emporte, et avec lui, l'idée d'une silviculture rapide à durée de révolution réduite pour diminuer les risques, catalysée par les tempêtes de 82, puis plus tard de la tempête de 99. D'après les inventaires forestiers menés sur le plateau, le Douglas devient prépondérant au cours de la décennie 90. Sa vitesse de progression calculée d'environ 400 hectares par an entre l'inventaire de 80 et celui de 90. Puis elle atteint 650 hectares par an entre l'inventaire de 1990 à celui de 2003. Le Douglas symbolise alors l'accomplissement des volontés planificatrices et productivistes de l'État, lequel a présidé au choix des essences au niveau local dès la fin des années 50.
Ces volontés donc productivistes, elles font quand même beaucoup penser à l'agriculture, même s'il s'agit de forêts. C'est quand même différent, non ?
Eh bien, en fait, à l'époque, non. La forêt est pensée comme un champ de bois. Cela explique qu'on y trouvait des pratiques héritées de l'agriculture intensive contemporaine, comme l'épandage de défoliants type DDT. Cette pratique était condamnée par les associations écologistes, car elle nuit fortement à la faune et à la flore. Par exemple, le faucon pèlerin en a été une des principales victimes, car ses coquilles d'œufs sont rendues friables avec le produit. Jusqu'à fin des années 60, il a été largement utilisé, par exemple à Saint-Merlis-Oussine, l'ONF menait des traitements avec ces produits et cela a fait l'objet d'une opposition assez hétérogène. Le maire de Saint-Merlis-Oussine et son conseil municipal, prévenus par des militants essentiellement néo-ruraux, se sont réunis très rapidement pour interdire cet épandage par arrêté avant qu'il n'ait lieu. Pour info, le DDT est interdit en France depuis 1971.
Ah oui, alors en effet, les temps ont quand même bien changé. Aujourd'hui, on n'imaginerait même pas l'utilisation de ces poisons dans la nature. Cela a dû créer pas mal de tensions chez les habitants du plateau de Millevaches, alors.
Oui, mais d'autres raisons surgissent. De 1970 à 1980, l'intensification de la fermeture des paysages et l'exode rural entraînant une pression sur le foncier créée par l'achat de terres par des sociétés pour les plantations commence à peser fortement sur les éleveurs et agriculteurs locaux, ainsi que sur les jeunes néo-ruraux qui cherchent à s'installer dans la région. Même si en 1975, une circulaire interministérielle presse les préfets du Massif central de mettre en place le zonage sur leur territoire avant 1980 pour mettre fin au conflit entre agriculteurs et forestiers, les inégalités ne cessent de se creuser alors que le pays continue à se vider de sa population. L'enrésinement a une part de responsabilité dans cette situation puisqu'il accentue la fracture entre résidents et non-résidents. En général, plutôt que de les louer à des agriculteurs, ceux-ci préfèrent de les faire rentabiliser en y installant des plantations génératrices de profits supérieurs qui sont gérés sur place pour eux par des sociétés spécialisées, comme par exemple la CFL, Coopérative Forestière Limousine, créée en 1973. Les résidents, eux, sont parfois propriétaires, mais tirent surtout la plus grande partie de leurs revenus de l'élevage.
Et donc cela a pu créer des mouvements de contestation ?
Oui, tout à fait. De 1970 à 2000, il y a eu pas mal de marches et de manifestations. On peut citer ici les deux plus marquantes, donc la manifestation des Bordes et la Chanteloube. Alors à la manifestation des Bordes, ce sont près de 500 personnes qui se mobilisent le 15 mai 1977 aux Bordes afin de marcher sur la ferme à l'abandon qui menace d'être recouverte de sapins. Les revendications du mouvement mené par les groupements fraîchement créés « Vivre dans la montagne limousine » brandis lors de la marche sont à l'image de ses participants, pour la plupart des néo-ruraux, pleins de la vigueur et de la jeunesse, selon la presse. On y scande entre autres « Pour que le sapin ne bouge plus l'horizon ». Dans le cortège également, des jeunes agriculteurs se projetant à long terme sur la continuité de leurs activités et donc opposant à l'expansion de la forêt. Les anciens, eux, étaient encore à la cause de Marius Vazeil pour une forêt paysanne adossée à la petite et moyenne propriété. Le deuxième mouvement emblématique, c'est la Chanteloube. Chanteloube, en mars 1979, la société civile immobilière, foncière et forestière de Chanteloube sollicite l'autorisation de démolir les bâtiments du hameau de Chanteloube afin d'enrésiner complètement ses terres. L'information du projet de destruction du hameau circule parmi les habitants de Soubrebeau et des alentours au cours de l'année 1979. Une pétition contre la destruction du hameau est diffusée, les bâtiments sont occupés et finalement, les bulldozers ne viennent pas. À ce jour, les bâtiments sont toujours visibles, mais en ruine.
Donc 1977, la manifestation des Bordes, la Chanteloube en 1979. Est-ce qu'il y a des événements marquants en 80 et en 90 ?
Eh bien, écoute, Maïné, en fait, oui, la forêt a poussé quand même en silence. Donc c'était plutôt calme dans ces années-là, quand même plus lentement que des champs de blé. Mais on a mis en place des moyens techniques de récolte et de transformation compatibles avec le modèle productiviste. Et ça, c'est plutôt marquant. Au début de la grande récolte, en 90, l'une des missions du CEMAGREF, donc le Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des Forêts, était d'adapter les machines à la forêt. Et on en reparlera plus tard, mais on se rend compte que maintenant, la forêt est de plus en plus adaptée aux moyens techniques de récolte.
Merci Lionel. Est-ce que tu peux proposer une courte conclusion pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours de route, s'il te plaît ?
Oui, alors on pourrait conclure par le fait que le développement des futaies à courte rotation et coupes rases qui reproduisent en fait des tempêtes artificielles au détriment du taillis sous-futaie ou de la futaie régulière longue ou jardinée ont naturellement encouragé la voie de la mécanisation, induisant des faciès boisés d'aspect parfois très artificiel, monoculture, et un bouleversement de l'emploi et du métier forestier. Par exemple, le bûcheron artisan des bois tend à devenir le chauffeur ou pilote d'engin travaillant dans une cabine en faisant appel à des compétences croissantes en mécanique, hydraulique, électronique et informatique. La transformation des scieries aussi, on peut en parler en conclusion, et on le verra dans la prochaine chronique. La transformation des scieries artisanales et semi-industrielles vers des méga-scieries au modèle scandinave ou américain, tel que prôné par les forestiers des années 70 auprès des propriétaires, aura lieu à partir de l'an 2000. Millénaire commencé chez nous par deux tempêtes dévastatrices, Martin et Lothar, mettant à terre plus de 140 millions de mètres cubes, soit 2,5 fois la récolte annuelle française. Le Limousin étant le troisième département le plus touché, avec plus de 16 millions de mètres cubes de bois. Je réaliserai une chronique spéciale au sujet des tempêtes, en forêt d'ailleurs, à ce sujet. Nous parlerons dans la prochaine chronique donc de la gestion forestière après tempête, des conséquences de cette dernière sur le massif haut-corrézien et à entreapercevoir de 2000 à nos jours le nouveau point de cristallisation des luttes qui porte désormais non plus sur la lutte contre la forêt, comme le disait M. Périssaguet, ex-président de l'association Vivre dans la montagne Limousine, qui est de toute manière déjà relativement bien implantée, cette forêt. Mais plutôt, les luttes porteront sur les forêts alternatives qui pourraient d'ailleurs mieux prendre racine sur le plateau de Millevaches.
Merci Lionel pour cette sixième chronique L'Onde du Bois. On te dit à lundi prochain.
Merci beaucoup, merci à vous. À très bientôt.
En attendant, tu nous quittes sur un morceau. C'est lequel cette fois ?
Morceau choisi, La Tempête de Mansfield Tia.
On l'écoute tout de suite.
Le vent nous...